tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers amis auditeurs de Tranche de Vie, vous savez que un des principes de cette émission, c'est de faire parler les invités de leur profession, des professions actuelles ou des professions qu'ils ont exercées, et de l'intérêt qu'ils trouvent dans ces professions. Et puis à la fin, je leur pose toujours une petite question pour savoir s'ils ont d'autres passions que leur métier. Et aujourd'hui, avec Patrick Bruyère, nous allons inverser un petit peu l'ordre des facteurs, c'est-à-dire qu'on va commencer par lui demander de nous parler d'une de ses passions, et puis ensuite on verra d'abord s'il en a d'autres, et puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce sont des questions qu'on pose ordinairement au début de l'émission. Patrick Bruyère, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord.
Bonjour, merci de votre accueil.
Vous êtes là pour nous parler d'une manifestation qui s'appelle les Vintage Days, qui va avoir lieu bientôt au début du mois de septembre, et dans laquelle vous vous insérez d'une façon particulière. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler à nos auditeurs ce que sont les Vintage Days, et puis ensuite on passera au Liberty Vehicles Group, qui est l'organisation pour laquelle vous allez vous dévouer au cours de ces journées.
Donc effectivement, les Vintage Days qui ont lieu à Périgueux, les 2, mais surtout le 3 et le 4, puisque le 2, ça reste la mise en place, ont lieu depuis maintenant 7-8 ans. Alors on a eu, bien sûr, comme tout le monde, la petite mise sur pause du Covid. Donc là, on repart pour une nouvelle édition. Cette manifestation à Périgueux accueille tous les passionnés de véhicules de collection, de costumes d'époque, et donc rassemble les collectionneurs des années 30 aux années 70 qui possèdent un véhicule et qui même spontanément souhaitent venir à Périgueux en habit d'époque. La fourchette est grande sur les années. Donc ça peut permettre de rassembler un maximum de personnes. Et nous, avec notre association Liberty Vehicles Group, nous sommes présents depuis le début des Vintage Days. Et la spécificité de notre club, c'est que nous sommes collectionneurs de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, véhicules alliés principalement. Et nous sommes partie entière de la manifestation. Cette année, du fait des travaux qui ont lieu à Périgueux, nous serons Esplanade de Badinter. Et les autres années, c'est vrai que nous étions Place Bugeaud. Donc nous allons reconstituer un petit camp militaire avec des véhicules en tout genre, dont un char Sherman et la fameuse Jeep qui a cette image de liberté et qui permet aujourd'hui à notre pays de vivre sous un régime de démocratie. Et avec aussi un élément d'exception, nous avons un membre du club qui possède des téléscripteurs et les premiers ordinateurs et moyens de radiotransmission qui ont servi lors du débarquement Overlord le 6 juin 1944. Cet appareillage qui était basé sur Londres et puis qui était dans un premier temps sur un navire et après a été débarqué lorsque les Alliés ont gagné du terrain en Normandie. Donc il y avait 4 systèmes au monde qui existaient en juin 1944 et nous avons la chance d'avoir un membre du club qui possède un des exemplaires avec toute une batterie de téléscripteurs, de machines à écrire, de radios, je vous engage vivement à venir voir ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui sera présent cette année pour l'édition 2022 des Vintage Days.
Alors ça, c'est je pense que cet appareillage qui a préfiguré les ordinateurs et le numérique, ça va passionner les jeunes probablement. Mais dites-moi quand même, un char Sherman, ça se gare quand même difficilement dans son jardin. C'est un périgourdin qui possède cet engin.
Oui, c'est un ami. Alors là aussi, Donc notre association, vu l'ampleur de l'événement, est épaulée par des amis, notamment des amis du club de Bergerac, des amis du club d'Angoulême. Et dans les membres du club, nous avons quelqu'un qui est, on va dire, dans le Libournais, à la limite du département, et qui possède un char et qui se met dans une grange. Donc c'est vrai que pendant la guerre, il y a pas mal de véhicules militaires qui ont été mis dans des granges pour stationner et surprendre l'ennemi. Là, il n'y a plus d'ennemis, mais il n'y a plus d'ennemis, mais on les met toujours dans les granges. Et c'est vrai, je ne vous cache pas, il y en a qui ont été oubliés. Alors celui-là sort d'un stock classique, hein, devait être stocké dans une caserne, et puis avec les ventes de l'État, un passionné a racheté ce véhicule. Mais je me rappelle, il y a 6-7 ans de ça, donc là on est à la deuxième participation du club Liberty Vehicles Group au Vintage Days, nous avions aussi fait venir un char Sherman qui lui avait été sorti du sable sur la côte landaise, puisqu'après, comme vous le savez, l'armée américaine avait laissé l'intégralité du matériel militaire après la libération, pour des raisons de coût, hein, ça revenait beaucoup plus cher de rapatrier tout ça aux USA. Il y a un deal qui a été fait avec la nouvelle armée française qui renaissait de ses cendres, et l'intégralité du parc américain a été cédée à la France. C'est pour ça que nous avons la chance aujourd'hui de retrouver ces véhicules qui ont servi après aussi, que ce soit en Indochine ou que ce soit en Algérie. Là aussi, une partie de ce matériel est resté sur place ou a été détruit tout simplement, notamment, voilà, comme vous dites, les Alfstrak. Donc ces véhicules étaient basés dans des casernes sur tout le territoire, et voilà. Et ce fameux char là qui était venu à l'époque avait servi de cible, et au fil des années s'était retrouvé enfoui dans le sable. Et c'est un passionné qui, passant lors de vacances d'été, avait vu un bout métallique qui sortait et qui lui a rappelé quelque chose, et au grand marée en a profité avec un arsenal, on va dire, de BTP conséquent pour extraire ce vestige de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, voilà, aujourd'hui, et puis pour vous dire, en hommage à la deuxième DB du général Leclerc, ce char Sherman est baptisé Benghazi, puisqu'il lui-même avait été attribué à la deuxième DB, et donc a perduré et a été conservé. Et aujourd'hui, notre ami du club de Bergerac, qui s'appelle Brothers 24, sera présent à Périgueux pour les Vintage Days.
Brothers 24, ça veut dire quoi? Vous avez des appellations suivant la localisation, la nature des membres, leur ancienneté, comment ça marche un petit peu? Puis donnez-moi un petit peu une idée aussi, s'il vous plaît, de l'importance de votre association, combien de membres, combien de collectionneurs, etc. Et puis aussi, évidemment, une question, vous avez abordé la question de la récupération des matériels avec les ventes de l'État. Comment se renouvelle, ou comment s'accroît cette collection? Est-ce que c'est par le biais des ventes de domaines, ou est-ce que c'est par le biais d'échanges avec d'autres collectionneurs, éventuellement dans le reste du monde?
Alors, pour venir à vous, je vais procéder à l'envers par rapport à vos nombreuses questions. Donc, par rapport aux ventes des domaines, aujourd'hui, il n'y a plus de matériel de cette époque-là qui est en vente au domaine. Je crois que les dernières pièces se sont vendues dans les années 2010. Aujourd'hui, ce sont des transactions entre passionnés, entre collectionneurs, ou alors, comme vous le disiez tout à l'heure, des véhicules qui ont été oubliés dans une grange, et qu'au décès de l'arrière-grand-père, les petits-enfants qui sont absolument pas passionnés par ça, découvrent et puis donc mettent à la vente. Et donc ça se passe de particulier à particulier. Donc voilà, en ce qui concerne le moyen de trouver ce matériel-là. Et comme je le disais précédemment, le stock américain a tellement été conséquent après leur départ. Je vais rien vous apprendre. Toutes les personnes qui ont... Qui ont un âge, certains ont vécu ça, et notamment à Périgueux, dans toutes les villes, il y avait une base américaine avec des fameux GIs qui ont apporté notre mode de vie. Je veux dire, le mode de vie que nous avons aujourd'hui nous a été apporté sur un plateau, en quelque sorte, parce que, ben, je veux dire, avant que les Américains soient là, tout le monde se rappelle qu'on allait aux toilettes au fond du jardin et qu'on allait puiser l'eau. Voilà, donc, je veux dire, la fin de comète du plan Marshall a apporté un grand bond pour la nation française à cette époque-là.
Donc, sans effacer quand même la spécificité périgourdine, hein, attention là.
On est bien d'accord, hein, les Américains qui étaient dans nos régions en ont profité pour découvrir une gastronomie qui est effectivement pas très conséquente chez eux. Chacun garde ses spécificités. Mais de toute façon, vous le savez, on s'enrichit toujours des mélanges.
Alors, donnez-nous une idée de l'importance de votre association. Combien de membres? Alors, au passage, si vous en avez la possibilité, donnez-nous aussi un peu une idée de l'importance de l'autre association, enfin de ce qui fait pendant à votre association, à savoir toute la partie civile.
Alors, notre association, aujourd'hui nous sommes 18 membres et il y a une trentaine de véhicules, donc ça va du GMC au Réo, en passant par le Dodge et puis la Jeep et ainsi que les Harley, voilà, et nos amis de Bergerac. Bah, après, oui, tout à l'heure vous m'avez posé la question, l'existence de ces clubs, donc comme vous voyez, il y a toujours une consonance américaine dans l'appellation et le rapprochement, comme vous l'avez compris, avec notre département. Voilà comment se font les noms. Et après, ben, c'est un historique de chaque association, les personnes qui les ont constituées, les personnes qui les ont faites. Donc après, aujourd'hui, chacun a ses réseaux, chacun a ses contacts, et sur les événements importants, nous essayons de travailler en osmose pour le plaisir du public, parce que ça nous permet ainsi d'avoir un panel de véhicules le plus large possible, un panel d'uniformes et de tenues le plus large possible pour le ravissement des plus grands et des plus petits.
Oui, parce que là, on a oublié, on est tenu au véhicule, mais au gros matériel, mais on a oublié les costumes. Et comme les civils viennent en costume des années 30 aux années 70, vous, j'imagine aussi que vous mettez un poids d'honneur à vous présenter dans les costumes militaires de l'époque. Mais dites-moi, est-ce que vos membres, est-ce que vous recherchez systématiquement des pièces qui manqueraient à votre collection? Je sais pas, j'ai par exemple un command car en parfait état pour agrandir votre collection et l'embellir.
Tout à fait, et quand vous parlez de command car, on parle de perles rares, et vous savez que les passions de collectionneurs ne s'arrêtent jamais, hein, parce qu'on cherche toujours la pièce improbable, introuvable. C'est un peu la quête du Graal. Donc, et le command car fait partie de ces véhicules-là, avec aussi la WPA, qui est la Jeep Amphibie, hein. C'est des véhicules qui ont été produits à peu d'exemplaires et qui sont effectivement extrêmement recherchés, et qui aujourd'hui atteignent des prix exorbitants. Et après, si on parle de costumes pour les civils qui viennent au Vintage Days, là, on est dans l'aspect militaire. On parle d'uniforme parce qu'on a vraiment cette sensibilité tous et la volonté de transmettre la mémoire et de faire... de donner cette idée aux jeunes générations que ses alliés, en délivrant la France, et je sais que notre Dordogne aussi, terre de résistance, a œuvré en ce sens en retardant les remontées de troupes allemandes vers le front, si les alliés n'avaient pas été là, même au niveau des résistants, pour les alimenter en armes, en argent, on sait toute l'aide qui a été apportée, même si aussi... On n'est pas naïf, on sait très bien que, comme toujours, les Américains ont apporté de l'aide, mais derrière s'attendent à des contreparties ou essayent d'imposer. On a parlé de leur mode de vie, ça s'est fait facilement, mais aussi ont essayé d'imposer une idéologie politique que le général de Gaulle a réfutée. Donc, on n'est pas naïf, mais on a vraiment ce devoir de mémoire. Et aujourd'hui, où où nos anciens combattants sont de moins en moins nombreux sur les manifestations, nous sommes amenés, ça c'est un autre pan de notre activité, à épauler les communes lors de cérémonies, de commémorations, de ces dates historiques qui sont importantes pour notre pays démocratique.
RLP, toujours un peu plus loin. Mais dites-moi, là, on est en train d'entrer dans le sérieux. Hein. Parce qu'en faisant ce travail, et en le faisant comme vous venez de le décrire, est-ce que vous avez la conscience, ou la sensation, ou la volonté de faire un travail d'historien, d'archiviste et d'historien pour donner aux jeunes générations une idée précise de ce qu'a été, du bouleversement qu'a été l'irruption de cette formidable armada dont le matériel a épaté absolument tout le monde et qui a été vraiment une révélation pour le monde. La puissance des États-Unis, on en a vu un petit avant-goût pendant la première guerre mondiale, mais là, elle a éclaté vraiment d'une manière tout à fait spectaculaire. Et quand vous parlez des prolongements politiques, on était dans un temps où quand même la menace de la Russie soviétique était concrète.
Oui, alors là aussi je veux remettre les choses à leur place. Nous sommes très modestes, vous me parlez d'historiens, d'archivistes, là ce sont des professionnels. Nous sommes avant tout des amateurs, mais des amateurs passionnés. Alors effectivement, nous connaissons...
Vous documentez quand même.
Bien sûr, mais nous, voilà, je ne veux pas faire ombre aux professionnels de ces métiers-là. Mais par contre, je revendique sincèrement un complément, parce que sous, on va dire, cet aspect ludique, ludique dans le sens où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand les jeeps sont arrivés en France, les enfants avaient les yeux écarquillés, ils découvraient le chewing-gum, ils pouvaient manger du chocolat. Cet impact que ça a eu sur les jeunes et les moins jeunes, hein, la population française a vraiment été marquée par cet épisode historique. Mais cet impact, on le retrouve chez les enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient à la demande d'un établissement scolaire et qu'on arrive avec une jeep, le cours d'histoire est beaucoup plus ludique. Et donc, le message passe plus facilement. Alors, on est effectivement, je vais dire qu'on vulgarise un peu le travail des archivistes et des historiens à notre manière, avec des éléments concrets qui parlent aux plus jeunes.
Vous avez parlé de GMC, vous avez parlé de l'arrivée des Américains. Moi, je vais vous livrer mon souvenir personnel, puisque j'ai l'âge d'avoir des souvenirs personnels de cette époque. J'étais au Maroc et je me souviens très bien de l'arrivée des Américains et du passage des GMC dans ma petite rue où les GIs nous jetaient des barres de chocolat et de chewing-gum à notre grand émerveillement, bien entendu.
Mais oui, et pour rien vous cacher, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu le plaisir d'être invité par le club de Corse, parce que bon, c'est les clubs de collectionneurs, on en trouve dans tous les départements, et on avait fait une grosse manifestation pour le 60e anniversaire de la libération de Lille, et moi j'ai vu des personnes effectivement de votre génération pleurer de joie de voir ces participants avec leurs véhicules, avec les uniformes, parce que, voilà, comme je vous disais, aussi notre club, on est amené à faire des manifestations extérieures. Cette année, nous avons été en Normandie. Alors, les années passant, il y a de moins en moins de vétérans, mais moi, je me suis vu être interpellé par un vétéran qui nous remerciait parce qu'on avait des uniformes. Et c'est pour ça tout à l'heure, c'était important, c'est pas des costumes, ce sont des uniformes, parce que nous allons au moindre petit détail, à la moindre barrette, le moindre petit pins qui détermine l'unité, et ainsi de suite. Ça permet à ces gens qui ont vécu ça dans leur vie de se voir, c'est un peu une machine à remonter le temps, hein, de se voir transporté à l'époque. Et j'ai vu des personnes très très émues de voir les véhicules et de voir, et de suite ils retrouvent leur âme d'enfance.
Est-ce que vous avez des échanges ou est-ce que vous avez des échanges? Quels sont les clubs les plus importants? Comment se situe le vôtre en matière de parc, de dotation de matériel, enfin de capital de matériel et d'uniformes. Est-ce que vous avez des échanges avec ces autres clubs ou éventuellement avec des clubs voisins qui existeraient à l'étranger?
Alors, le réseau, effectivement, est mondial. Ça fait partie des aléas aussi et puis des affinités des hommes. Hein. On reste avant tout des passionnés et des êtres humains. Donc on a effectivement des relations avec des clubs, que ce soit en Normandie, que ce soit sur Poitiers, que ce soit sur Bordeaux, que ce soit sur Canet en Roussillon. Voilà, et après c'est au fil des rencontres, au fil des, je vais dire, de la sympathie entre les passionnés que nous sommes, que des échanges se font. Et puis pour rien vous cacher, à une époque, nous sommes en Dordogne, nous avions des membres de nationalité anglaise et qui eux-mêmes, avant d'arriver sur le département, étaient en Angleterre affiliés à un club, ce qui nous a permis de rendre visite à nos amis sur la ville de Beltring, pour à l'époque une grosse manifestation. Donc voilà, effectivement, on est tous en réseau en fonction de nos affinités et de nos amitiés.
Est-ce que vous avez la possibilité, vous avez évoqué des manifestations, des déplacements à l'occasion d'anniversaires, est-ce que vous aussi, vous participez à, je ne sais pas, par exemple, il me semble que vous m'avez dit que vous avez participé à une commémoration du débarquement de Normandie. Est-ce que ça, y a d'autres exemples ou est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette manifestation à laquelle le club de Périgueux a participé?
Donc effectivement, nous sommes en juin dernier, nous sommes allés en délégation en Normandie. Nous avons mis les véhicules sur un camion plateau, hein, parce que je vous explique pas, pour aller en Normandie avec un Dodge ou un GMC, il faut 3 jours.
Hein. Faut respecter les vieillards quand même.
Exactement, doucement va loin aussi. Donc nous avons été en Normandie en retrouvant des amis sur place d'autres clubs pour effectivement participer à ce devoir de mémoire et à ces commémorations comme nous faisons ça sur la Dordogne et sur les départements limitrophes.
Donc là, ça a été l'occasion de rencontrer d'autres clubs et des délégations représentées concrètement par leur matériel.
Tout à fait, parce que en Normandie, on retrouve aussi, et encore plus cette année, puisque c'est tombé avec le jubilé de la reine d'Angleterre, nos amis britanniques avaient eu des jours de congé exceptionnels pour ça, et certains en ont profité pour traverser la Manche et puis venir avec leurs véhicules, et aussi beaucoup de véhicules de nos amis belges et de nos amis hollandais, qui sont présents sur les manifestations de la libération de la Normandie, parce que comme vous le savez, tous ces pays-là faisaient partie des alliés et ont œuvré dans le même sens. Et donc, je veux dire, voilà, c'est ce retour vers l'histoire de ces pays qui ont eu le bonheur, comme vous le disiez précédemment, de voir les GMC passer devant leur maison, qui ont peut-être été aussi transmis de génération en génération, parce que dans ces clubs-là, on trouve souvent des petits-fils ou des fils de résistants, et même des arrière-petits-fils, parce que aujourd'hui, nous, membres du club, on a commencé tôt, mais on prend de l'âge. Et c'est vrai que la moyenne d'âge de nos GIs était 20 ans. On n'a plus 20 ans, donc comme nos véhicules, il faut nous ménager.
Patrick, nous allons peut-être, je pense qu'on a fait le tour de cette formidable activité à laquelle vous participez. Je pense qu'on a annoncé ce qu'il fallait annoncer. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu de vous. Est-ce que vous avez été, par votre métier ou les métiers que vous avez exercés ou par votre passé familial, prédisposé à vous intéresser à cet aspect de l'histoire de la France contemporaine?
Alors, pas réellement. Pas réellement, pour rien vous cacher. Alors, mon métier n'a rien à voir puisque je suis contrôleur de gestion, donc vous voyez que ça n'a aucun rapport. Je fais partie de ces dernières générations.
Alors, les stocks, quand même.
On est bien d'accord. Mais là, c'est pas des boulons qu'on compte. après, voilà, je fais partie des dernières générations qui ont fait l'armée. Et encore, je veux dire, j'ai été bien loti puisque j'ai pas été dans un corps d'armée, puisque j'ai fait mon service militaire dans la police nationale, donc vous voyez, ça n'a réellement rien à voir. Je pense que j'ai été imprégné des souvenirs, même si il était assez discret sur ça, de mon arrière-grand-père qui avait fait la Première Guerre et qui a un petit peu œuvré du fait de ses fonctions pour approvisionner certainement des camps de résistants dans les environs de Périgueux, plus même, je dis, dans les environs de Périgueux, plus sur Saint-Laurent-sur-Manoir. Donc voilà, mais il a toujours été très discret. Par contre, je crois que j'ai lu dans ses yeux et aussi dans les yeux de mon arrière-grand-mère la souffrance de l'occupation allemande, puisqu'on sait bien que Périgueux, alors c'était pas réellement des Allemands, c'était des auxiliaires d'Afrique du Nord. Il y avait des Allemands, mais enfin qui ont souffert de cette période-là. Donc il y a eu quand même beaucoup de discrétion. Et après, ben voilà, je ne sais pas comment c'est venu. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, je me rappelle que quand j'étais préadolescent, à notre époque, les portables et les jeux vidéo n'existaient pas. Et la passion avait déjà imprégné mon corps, puisque je faisais des maquettes de véhicules militaires terrestres de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, ça existait quand même.
La passion était en gestation.
Les prémices, voilà.
Dites-moi, il me revient une chose, vous y avez fait une brève allusion tout à l'heure, il existe à Périgueux des restes bâtis de la présence des Américains. Je pense à toutes les villas qui se trouvent à l'entrée de Boulazac, je pense au camp américain
qu'on est en Coulounier-Chamier,
qu'on est en train d'aménager pour d'autres fonctions. Est-ce que tous ces vestiges mériteraient qu'il y ait un effort de conservation peut-être, ou peut-être de promotion vis-à-vis des visiteurs de notre pays et de notre région et de notre ville?
Oui et non, parce que déjà pour des raisons, on va dire, à l'époque, les matériaux qui étaient utilisés, notamment l'amiante, c'est compliqué de conserver tout ça en l'état. Après, c'est plus une présence américaine post-guerre. Comme vous le savez, sur la partie de Boulazac, c'était avant tout un hôpital suite à la Première Guerre mondiale. C'était une zone de repos. Et après, c'était la présence américaine. Et vous le savez, puisque vous l'avez vécu, que cette présence américaine, politiquement, au bout d'un moment, a posé des problèmes. Et que même si les personnes, entre elles, les individus, ont eu des échanges, ont eu des relations, il y a eu aussi des problèmes. Voilà, jamais tout n'est blanc ou noir. C'est toujours un peu teinté de gris. Je veux dire, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui était une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est conserver l'essentiel, à mes yeux, qu'ont apporté les Alliés et les Américains. C'est la démocratie, la reconnaissance des massacres de des résistants, des opposants politiques et de la population juive. Pour vraiment dire aujourd'hui plus jamais ça. Et vous voyez, je faisais l'allusion à mon arrière-grand-mère tout à l'heure, qui a vécu cette période et qui m'a dit, avant de passer à trépas, qui m'a dit: mon petit, n'oublie jamais quelque chose dans ta vie, c'est que les extrêmes, qu'elles soient à gauche ou à droite, elles n'apportent jamais le bonheur aux gens. Donc ça, c'est peut-être ça aussi qui a fait que l'action du Liberty Vehicles Group est plus sur cette volonté d'expliquer pour que notre démocratie soit forte et résiste à toutes ces tentations qui amènent après le noir et l'obscurité.
C'est sur cette très belle conclusion que nous allons quitter Patrick, en le remerciant d'abord pour son témoignage si éloquent et si vif, et puis en souhaitant un plein succès au Vintage Day, et à l'intérieur des Vintage Day, plein succès à ce que montrera une fois encore le Liberty Vehicles Group. Merci Patrick.
Merci à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.